On est dans le temps qui suit Pessah. Et le temps qui suit Pessah, c'est un temps qui s'appelle le décompte ou le compte du Homer. Et ce temps du compte du Homer a un but bien particulier et précis à la fois, celui d'aboutir à la fête de Shavuot, la fête des semailles et des moissons et des récoltes, qu'on appelle communément, dans le terme grec, Pentecôte. Et c'est clair que c'est un des points, cette fête de Shavuot, un des points clés de l'histoire d'Israël, un tournant même dans l'histoire d'Israël, dans la foi même d'Israël, par rapport à toutes les nations. Et c'est avec parfois un peu de tristesse que je le dis, dans l'incompréhension souvent de ce que l'Ecclésiaste, c'est-à-dire l'Église, a compris de Pentecôte et de Shavuot. Et que très souvent, eh bien, Pentecôte, Shavuot est associé à la séparation d'Israël par la naissance de l'Église et en même temps, bien, quelque chose qui s'est modifié et qui a, malheureusement, on peut le dire comme ça, c'est vrai que c'est pas toujours compris, qui a été transformé, que cette fête est devenue une fête qui n'a plus le même rapport avec sa dimension biblique, prophétique et spirituelle. Et donc, il y a d'autres choses qui sont mentionnées, mais ça a perdu son sens. Donc il faut bien comprendre et réaliser que le temps du Homer est un temps qui est important dans la vie, la marche des Hébreux, parce qu'il ne suffit pas, et je crois que c'est une évidence, même si elle n'est pas toujours saisie, captée, il ne suffit pas d'avoir été délivré, d'être libéré de l'esclavage, mais encore faut-il marcher en homme libre et comprendre le sens de la liberté. Et puis dans un troisième temps, de comprendre que cette liberté ne peut être réelle qu'à partir du moment où on a intégré l'injonction de Dieu, celui de le servir. Et afin qu'il devienne notre Dieu. Alors, je me lance dans une toute petite réflexion, mais tout au long de ma vie, j'ai souvent entendu « je veux servir Dieu ». Et ce que j'ai pu en déduire, c'est que le désir est là, mais l'application, pas souvent. Et que, eh bien, on trie, ou alors on l'interprète, ou alors on dit certaines choses. Pour certains, servir Dieu, ça va être ça, ça va être ça. Et pour d'autres, eh bien, c'est essentiellement être en évidence, en avant, sur les plateformes, devenir une star, ou éventuellement enseigner. Voilà, chacun a son idée, et je ne sais pas quelle est la résonance en vous, dans votre cœur, lorsque nous parlons de servir l'Éternel de tout son cœur. Et c'est vrai que cette profondeur, ce n'est pas simplement les actions, mais c'est de servir dans quelque chose de très précis. Donc, il y a 50 jours qui sont comptabilisés de la sortie de Pessah, de la dernière nuit et fête de Pessah à cette fête de Shavuot, qui est un revêtement, mais qui est un changement. Alors il y a deux choses peut-être à donner en cadre, à préciser. La première, c'est que Pessah est associé au renouveau du printemps. C'est là que finalement même la terre passe de la mort à la vie, hein, que d'un seul coup les températures remontent. Enfin, cette année c'est un peu particulier. Au mois d'avril, on est encore un peu dans l'hiver. Mais bon, c'est comme ça. Mais normalement, nous devons comprendre que nous changeons de saison. Et nous changeons, et effectivement, quand même, de certaines choses. Donc, Pessah est très associé à toute cette dimension du renouveau de la vie. Et qui est en association avec la fête de Pessah elle-même, puisqu'elle a le symbole de passer de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, etc. Donc, une fois que cette étape est passée, la fête de Shavuot, elle, va marquer un autre temps, une autre dimension, et surtout, elle va nous amener à un aboutissement de la fête de Pessah, qui n'est pas la fin du cycle des rendez-vous et des fêtes de l'Éternel, mais qui va avoir quand même quelque chose de très particulier, celle d'avoir la compréhension de l'homme nouveau, ou d'avoir cette identité nouvelle. Donc 50 jours, et chaque jour est quelque chose qui est une avancée réelle. Alors, il est vrai que lorsque nous parlons de l'esclavage, nous ne pouvons pas comprendre le sens de servir librement. Parce que nous sommes dans l'obligation. Nous sommes obligés, puisqu'il y a un maître, un tyran au-dessus, qui oblige à faire les choses, et donc il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de liberté, puisqu'il n'y a pas de choix. Mais lorsqu'on est sorti de l'esclavage et qu'on est entré dans le temps de la liberté, on a le choix. Et c'est là que parfois le bât blesse, parce que les choix, eh bien, sont complexes dans la vie de l'homme. Dans notre quotidien, ils sont relativement complexes. Et en même temps, comprendre ce que veut dire servir Dieu, eh bien, nous amène à nous interroger. Et ça va être notre cheminement, en rapport même avec la paracha, Shemini, qui va nous ouvrir l'itinéraire. Parce que Shemini n'est pas dissocié d'un élément, de quelque chose de très important, où je vais donner deux axes par rapport à cette explication. La première, ce qu'il faut comprendre, c'est que Shemini arrive au moment où là, le Mishkan, le tabernacle, la maison, l'habitation, le lieu de la résidence divine est construite. Et si vous voulez l'explication, dans un premier temps, toute la construction, c'était la compréhension intérieure, spirituelle, voire intellectuelle, de tout ce que Dieu est et de tout ce qui est en relation avec la dimension de la rédemption. C'est la compréhension, c'est de voir le plan de Dieu, si vous préférez un terme plus commun. Et en même temps, de comprendre la réalité du futur. Ça, c'est fondamental. Et donc, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas seulement d'avoir compris, d'avoir capté, d'avoir même participé à la construction, d'être un élément clé dans la construction qui donne le fonctionnement. Et tout le but de la construction du Mishkan, c'était pas de dire « Regardez comme c'est prophétique, c'est merveilleux » et de donner des interprétations et de dire « Eh bien, nous avons fait quelque chose d'extraordinaire dans ce désert et c'est merveilleux ce que nous avons fait et qui n'est pas païen. » Mais ce qui est beaucoup plus important que d'avoir construit même la maison ou le temple plus tard, c'est son fonctionnement. Parce qu'il régit les lois, j'aime bien, dès qu'on dit le mot loi, d'un seul coup, il régit les lois du fonctionnement de la sainteté de Dieu. Et de s'approcher de Dieu et de savoir comment servir Dieu. Et c'est pourquoi il y a des choses qui peuvent nous paraître parfois un peu étranges. Et ce chapitre 10 de Vaïkra est assez particulier, même si la paracha comporte quelques chapitres. Il faut savoir que Vaïkra va consacrer environ 9 à 10 chapitres, suivant comme on le comprend et suivant les traductions, 9 à 10 chapitres sur les lois de pureté, et qui vont toucher et couvrir l'ensemble. Et que ce ne sont pas simplement des idéologies, que ce ne sont pas simplement des approches pour certains qui sont historiques et vécues dans le cadre d'un puritanisme qui a été établi dans les siècles passés, d'un idéal qui est un peu abstrait, mais de quelque chose qui est très concret et qui touche la vie collective, individuelle, conjugale et toutes les relations. Et elle va loin puisqu'elle inclut même l'une des parachas qui est la plus fondamentale par rapport au Mashiach. C'est celle de la, du moment où il y a la loi par rapport aux lépreux, par rapport à la lèpre et la purification de la lèpre. Et le Mashiach est appelé dans Isaïe le prophète, le lépreux. Il est appelé le lépreux. Littéralement, le nom du Mashiach, c'est lépreux. Et dans le sens qu'il a pris la touma, la faute, dans le sens qu'il a pris le mal sur lui, qu'il a été frappé d'un mal de Dieu qu'il ne méritait pas. Et donc, toutes ces choses, quand vous les lisez dans Vaïkra, elles sont assez complexes, difficiles, elles sont... Parfois, les termes même nous sont, pour certains en tout cas, étrangers et nous dérangent en quelque sorte. Et pourtant, il y a quelque chose de très important. Et si je pose la question, mais qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Et surtout, comment le servir? Parce que ce n'est pas le but de vouloir le servir, mais comment Dieu veut-il que je le serve? Et la différence va être marquée par ça. Et toute la dimension de ce chapitre 10, c'est de dire, je peux le servir avec mes propres notions, ce qu'ont fait Avihu et Nadav. Et ils ont voulu apporter une autre forme, une chose que Dieu n'avait pas ordonnée, une chose que Dieu n'avait pas voulu, que Dieu n'a pas demandé. Et ils ont voulu introduire quelque chose. Et la sanction est tombée. Donc on ne s'attardera pas trop là-dessus, mais on le verra. Et je crois que c'est très important parce que dans nombre de situations, on n'a pas compris le fonctionnement de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ce n'est pas simplement un système basé sur des statuts déclarés en préfecture de police, mais un fonctionnement aussi intérieur, un fonctionnement dans la vie quotidienne, un fonctionnement dans la vie conjugale, un fonctionnement dans la vie collective, communautaire. Et c'est quelque chose de très important parce que quand on se trouve dans la notion même de synagogue, eh bien les fonctionnements internes sont parfois complexes et je dirais pas toujours roses. Alors, si je donne une petite orientation, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est de dire, par exemple, voilà, l'Éternel, ou par la transmission des pères, nous recevons l'héritage du futur. C'est exactement ça. Dieu transmet dans le présent, mais le présent est déjà dans le futur. Parce qu'il est déjà dans la transmission des fils. Il est déjà dans ceux qui seront plus tard après nous. Et nous ne sommes que responsables de ce laps de temps pour que le futur puisse trouver son accomplissement dans les plans et les voies de l'Éternel. Et il faut bien comprendre ce qui est complètement différent de ce que nombre de personnes, nombre d'entre vous ont connu le système ecclésial qui fonctionne complètement différemment. Et il fonctionne sur d'autres normes, avec d'autres principes, avec d'autres approches, d'autres compréhensions, pas obligatoirement fausses, mais qui n'ont pas obligatoirement toute la dimension que le peuple d'Israël a accumulée par ses années, par ses souffrances, par ses erreurs, par ses égarements, par les jugements de l'Éternel. Et à un moment donné, eh bien, il y a quand même des choses qui se sont intégrées et qui se sont mises en place en eux et au milieu d'eux. Et l'une des choses, c'est de comprendre que lorsque nous parlons de synagogue, nous ne parlons pas simplement, et ça c'est vraiment la différence avec les églises, il faut bien l'intégrer. Je sais que même 15 ans plus tard, certaines ne l'ont pas encore intégré. Donc, il sera peut-être temps un jour. On ne désespère pas. Ayez foi qui disait. C'est de comprendre que quand il y a une autorité que Dieu place, non pas une autorité spirituelle comme on l'entend dans les églises, mais lorsque Dieu a donné une onction, non pas pour gouverner, mais pour conduire. Ce qui est complètement différent. Mais totalement différent. L'Éternel donne une onction de berger pour conduire, orienter. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a quelque chose qui, dans le peuple d'Israël, jusqu'à l'heure actuelle, donc des siècles et voire des millénaires plus tard, continue dans cette voie. Ils vont suivre et en même temps, ils vont adopter le mode de fonctionnement dans chaque synagogue, le mode de fonctionnement de leur rav. Et ils ne vont pas commencer à dire « Ouais, mais regardez, je vous donne un exemple très concret. » Parce que ça, ce sont des questions qui parfois sont un peu en suspens. Donc je suis un peu dans la généralité là pour l'instant. Hein. Mais vous allez voir où ça va nous mener. Tout à coup, on peut dire, et de manière légitime, mais quand on est dans une synagogue orthodoxe, les hommes sont séparés des femmes. Les femmes sont en haut, et c'est ce qu'on appelle vulgairement le poulailler. Et oui, parce qu'elles discutent de tout et de rien, de ménage, d'enfants, de problèmes, de toutes sortes de choses. Et les hommes sont dans un autre lieu et sont dans l'activité cultuelle. On est d'accord. Alors, on peut dire, mais c'est pas moderne, hein, surtout avec le mariage pour tous. Et puis quand on comprend, c'est que en fait, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, aucun regard du cœur ne doit se détourner de Dieu et se laisser distraire. Donc ça c'est une des causes, une des raisons, c'est pas l'unique, mais c'est également de comprendre que personne ne va remettre en cause dans la synagogue le fonctionnement. Qu'il y ait la loi pour le mariage pour tous ou pas, qu'il y ait eu en 68 le mouvement libérateur féminin, qu'il y ait de la modernité, ce principe-là, au temps de Yeshua, existait déjà. Et il continue d'exister encore aujourd'hui. Quels que soient les passages de l'histoire, les évolutions, les changements liés à la modernité. Et il a un but que je vous ai mentionné, ce n'est pas le seul, mais celui de bien faire comprendre qu'à un moment donné, il y a des responsabilités qui sont précisées. Lorsque j'ai été dans les églises, ou lorsque j'en visite, ou lorsque je parle avec des croyants, ou même des gens qui viennent ici, et qui s'interrogent, ou qui tout simplement cherche à découvrir les racines, la compréhension, eh bien, viennent avec un autre arrière-plan. Un autre arrière-plan, même spirituellement parlant. Et en venant dans cet autre arrière-plan spirituel, vont commencer à intervenir en disant « Mais il faudrait ça, ou il faudrait pas ça, il faudrait établir ça, et puis nanan, et puis... » Tout le monde a des avis qui parfois sont même contraires. Et quelque part, eh bien, l'identité d'Adav et Navihu est en train de se mettre en place. Et elle amène, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je crois que c'est une des réalités, elle amène le dysfonctionnement spirituel. Elle déstabilise l'ordre de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend dans la culture d'Israël, dans la foi d'Israël, dans la transmission de Dieu à Israël, ses voies, eh bien, il y a quelqu'un qui est placé, et non seulement il est placé, mais en même temps, il va orienter, et chaque synagogue aura sa propre fonction en fonction de certains paramètres halakhiques. Certains raves ne feront pas ce que d'autres raves font, mais ils l'établiront dans leur synagogue, et ce sera accepté dans leur synagogue. Et s'ils font partie d'une autre synagogue, ils ne vont pas venir en disant « mais pourquoi ?» Sauf si c'est contraire au commandement de l'Éternel. Sauf si c'est contraire aux lois halakhiques de pratique, ou à la déontologie, à l'éthique, à la morale, ou si c'est quelque chose qui est vraiment, pardonnez-moi, du n'importe quoi. Là, ils vont réagir. Mais autrement, si le rav dit dans sa synagogue, quelle qu'elle soit à Paris, voilà, principe de l'étude, l'imout Torah, etc., etc., et la pratique, c'est comme si, c'est comme ça, ils vont suivre. Et on va plus loin. Dans un deuxième temps, pour avoir la compréhension de la transmission, spirituellement parlant, et la réception même du futur, parce que le futur n'est garanti que par une seule chose dans l'homme, la fidélité à l'Alliance. Mais comment être fidèle si déjà, dans mon présent, dans mes réactions, j'y suis infidèle? Comment? Et toute l'interrogation qui va se poser va remettre en question le fonctionnement. Car dès que la personne pensera être libre, ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées, c'est que dès que le pasteur part, dès qu'il est à la retraite, dès que éventuellement il est viré pour une faute, dès qu'il y a un changement, d'un seul coup, c'est panique à bord. Les gens détalent comme des lapins, ils ne sont pas d'accord, le nouveau n'est pas connu, il vient d'un autre bord, il a une autre compréhension, il détruit ce qui a été fait, il amène des nouveautés que les gens n'arrivent pas à intégrer, il commence à discuter sur les changements qui s'effectuent, et tout à coup. Et puis il y a ceux qui sont d'accord, et puis que ça arrange parce que c'est une réaction à ce qui était avant. Mais ce n'est pas de l'amour. Et pour aller plus loin, la transmission est très mal faite parce qu'elle ne transmet pas. Et c'est un vrai problème. Par contre, quand on prend l'autre niveau, indépendamment de l'aspect communautaire, culturel de la synagogue, et que l'on prend la formation, le disciple, est-ce que Yeshua pratiquait ? Il ne faut pas comprendre Yeshua dans un autre domaine. Il formait des disciples. Mais ça voulait dire quoi ? Il formait des personnes qui allaient transmettre. Des personnes qui allaient être fidèles à la Torah. Des personnes qui allaient réellement être les fils. Et un fils aime son père. Un fils ne trahit pas son père. Un fils améliore ce que le père a fait, il le développe et il suit sa génération. Mais en restant fidèle et conforme. Et c'est comme ça que l'identité d'Israël a survécu à tout dans l'histoire. Et même à la Shoah. Même à la Shoah. La Shoah aurait dû détruire la foi d'Israël à cause de l'inconnu, de l'incompréhension. À cause du fait que, quelque part, c'était un événement tellement particulier que plus personne dans le peuple d'Israël n'aurait dû continuer de croire en un Dieu. Et plus profond dans un peuple élu par Dieu. Parce que ça, c'est un mystère. Dans ce mystère de l'élection, il est fondamental de réaliser que c'est quelque chose de douloureux dans l'âme d'Israël. Et pourtant, la foi d'Israël est là. Et il continue, même s'il y a d'autres choses. Donc dans cette formation, il y a, comme disait Paul à Timothée, ce que tu as reçu de moi. ce que moi je t'ai communiqué. En français, ça ne veut rien dire ce truc-là. Mais dans l'hébreu, c'est l'héritage, le patrimoine de l'onction que Dieu m'a donné, que je te transmets. Et je te le transmets au fur et à mesure et pas d'un seul coup. Et il ne faut pas croire que c'est par une prière que la personne va être envahie. Elle construit son mishkan. La formation, c'est la construction du mishkan, la compréhension du futur. Dans le plan de Dieu, pour acquérir le fonctionnement. Et malheureusement, il y a beaucoup, à un moment donné, de Nadav et Avihu. Alors on va maintenant aller beaucoup plus loin dans la pensée. Parce que le temps de l'Homère est ce temps de la construction. Dieu donne à Israël les lois, 10 paroles, à Shavuot. Mais il faut comprendre qu'ils ne les ont pas reçues dans n'importe quel état. Et que ces 10 paroles, ce n'était pas simplement quelque chose d'anodin, mais de bel et bien concret. Et cela veut dire que tout ce laps de temps de 50 jours, eh bien, ils ne se sont pas mis à danser, à boire, à s'enivrer, à faire la fête, à se rappeler la libération de l'Égypte uniquement, et à dire « Ah, ben maintenant, on est libre, hein, maintenant on fait comme on veut, et puis le Seigneur, ben, on peut le servir comme on veut, et puis le tabernacle, on rentre dans le lieu 50, on veut, comme on veut, en fonction de mes désirs. » Eh bien, là, il y avait la réglementation. Baruch HaShem, c'était la réglementation. Et ça nous amène à maintenant à comprendre une des choses qui manque en structure, une ossature dans la vie intérieure de l'homme, c'est la compréhension des règles de Dieu. Alors, on n'aime pas trop le mot parce que ça fait rigide, ça nous donne un sens d'obligation. Mais quelque part, il y a quelque chose dans l'identité d'Israël, dans la compréhension d'Israël, qui est importante. Tous les rabbanim dans l'histoire ont dit une chose. Et par expérience, je sais que c'est vrai et que c'est une réalité. Tout ce qui ne se construit pas dans l'effort est léger. Quand on n'a pas fait d'effort dans l'étude de chercher, c'est qu'on ne veut pas comprendre. C'est qu'on ne veut pas saisir. Alors on se nourrit de tout et de rien, on essaye de se construire une pensée qui vagabonde, mais il n'y a pas de structure et de stature. Et en même temps, ce n'est pas en suivant 1000 enseignements divers que l'on se construit. Voilà ce que ça veut dire. D'où la compréhension, non pas d'une exclusivité, mais de la fidélité. Et la fidélité, c'est ça. Et Paul le disait à Timothée, « Toi, mon enfant, sois quoi ?» Fidèle. Et il y en a quelques-uns qui le disent quand même. Hein. Bon. Toi, sois fidèle à quoi ? À mon enseignement. Qu'a dit Yeshua ? Celui qui garde mes paroles. Mon enseignement. Le roi Shlomo, dans les Coëlettes, garde mon enseignement au fond de ton cœur, car elles seront une couronne de vie. Et c'est ça. Alors maintenant, et quand l'on a, je pense, capté un peu le modèle global, il y a le lieu que Dieu fait construire pour lui-même. Pour lui-même, pas pour les hommes, mais pour lui-même. Pour qu'il réside. Et cela nous amène à comprendre que ce temps de l'Homère, ce temps de Pessah, ce passage dans le désert inévitable, eh bien, c'est de nous faire sortir de nous-mêmes pour nous faire entrer dans une autre réalité. La réalité d'une dimension que l'homme ne connaît pas de manière naturelle et qui est une dimension éternelle. C'est de sortir de cette création, de ce niveau de la temporalité, de sortir justement de cette matérialité, de ce qui nous rend esclaves, de ce qui nous oblige, de ce qui nous maintient dans une captivité, de ce qui nous contraint à vivre du besoin. On est constamment on ne peut pas dire que l'être humain, malgré la modernité, dit « je n'ai plus de besoin ». Il a constamment une vie liée aux besoins, à des besoins matériels, ne serait-ce que de manger. C'est quelque part comme ça. Alors, dans une approche plus rabbinique, et en même temps dans une approche rabbinique et messianique, on va entrer dans quelque chose où sortir de cette dimension de la création, c'est ce que Paul, Yeshua et toute la Torah appellent une nouvelle création. Et à partir de là, Paul va nous amener et nous introduire dans cet itinéraire. Parce qu'il dit à plusieurs reprises, autrefois nous étions, mais maintenant nous sommes. Il y a donc un autrefois et il y a un nous sommes. Dans le but de devenir, d'être. Et je crois que c'est très important. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors bien sûr, on peut faire de la psychologie, on peut faire toutes sortes d'explications sur les itinéraires individuels, personnels, des choses qui ont marqué la vie, qui les ont cassées, qui les ont mis en rupture, en arrêt, etc. Et qui ont arrêté le fonctionnement intérieur de l'être, les fonctionnements psychosomateurs, mais les fonctionnements affectifs, etc. Donc même les niveaux relationnels ont été touchés. Et la relation première qui a été touchée, c'est la Touma, c'est la faute de la désobéissance face à Dieu. Et la relation a été brisée. Le contact a été rompu. Il a été, dans l'hébreu rabbinique, il dit, il y a eu une interruption dans l'éternité. Parce que, à l'époque, l'éternité de Dieu, par rapport à la création qu'il avait créée, n'avait pas de dimension de temps. De la même façon que nous le connaissons maintenant. Il y avait une fusion. Et quand il y a eu la Touma, la faute, tout à coup le temps s'est arrêté. Et c'est ce temps qui est devenu ce que l'on appelle communément un jugement, parce qu'il est devenu une séparation. C'est-à-dire que l'homme est sorti de l'éternité de Dieu et qu'il est rentré dans sa temporalité. En entrant dans sa temporalité, il entre dans la dimension de la limitation de la vie et donc de la mort. Et c'est ça la Touma. Et ce n'est pas simplement l'homme a désobéi et Ève et on est séparés et puis après il faut passer par toutes sortes de trucs. Il y a un itinéraire, une compréhension. Et on va lire maintenant dans 1 Corinthiens, donc lisez bien à la maison après le chapitre 10, 2 Corinthiens, et vous allez voir avec le prophète Isaïe la relation profonde. 2 Corinthiens 5, à partir 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Combien vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes? Allez, dites-moi. On est dans l'honnêteté. C'est bien, vous commencez à être honnête. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Machiav selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Messie et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Messie réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc après, vous pouvez lire au verset 21, je vais vous le lire parce que c'est peut-être mieux. Celui qui n'a point, et qui rejoint donc ce que je disais, celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché. Mais ça ne veut rien dire chez les Juifs. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et là, je peux vous dire que nombre de théologiens s'achoppent. Car qu'est-ce que la justice ? Et la justice de Dieu face à la justice humaine, face à la propre justice. Et donc, il y a un grand nombre d'interrogations qui peuvent entrer. Ésaïe, le prophète, le chapitre 43, à partir du verset 16, pour la compréhension du contexte. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes, un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Ouais. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Ah. Il y a dans la construction du Mishkan l'effacement du passé, du fonctionnement ancien, des habitudes anciennes, de ce qui a été connu, de ce qui a été la base même, on pourrait dire aujourd'hui dans la modernité, la base même de l'éducation. Et cet effacement du passé, ce que l'on peut appeler l'autrefois de Paul, ce qui était avant que nous ne connaissions maintenant, et réellement, il veut nous introduire dans la compréhension de cette vie nouvelle qui veut dire littéralement, qu'est-ce que c'est que devenir une nouvelle création ? Qu'est-ce que c'est devenir une nouvelle création ? J'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. J'ai entendu pas mal de points avec beaucoup d'éléments. Mais ça n'est pas obligatoirement toujours la réponse adéquate. Et la réponse adéquate, je ne dis pas que je suis supérieur, mais je dis que j'ai fait l'effort, j'ai cherché à comprendre. Et un cheminement de 30 ans m'a amené à ça aussi. Parce que c'est important. Changer, c'est se dépouiller pour être revêtu de quelque chose de différent. C'est d'avoir une nouvelle identité. Voilà ce que c'est. Et Shavuot, c'est le revêtement de l'identité d'en haut. Mais les gens gardent leur identité d'en bas. Et ils fonctionnent avec une identité d'en bas, Adav et Nabihu, en essayant d'avoir une identité d'en haut. Et ils mélangent. Et ce que Dieu n'a pas voulu, c'est le mélange. Et de dire, eh bien, ce qui vient de moi est aussi bon que ce qui vient de Dieu. Et que quelque part, mes idées, mes pensées, mes fonctionnements sont aussi importants que ceux de Dieu. Et c'est ça. Alors des fois, ça peut être par excès de zèle, d'amour, etc. Mais revêtir une nouvelle identité est impossible. Impossible. Sans un dépouillement de ce qui est ancien. Sans le rejet de quelque chose qui nous a dominé. Et pour préciser, il ne s'agit pas, dans ce qui est amené dans la psychologie moderne, et parfois dans ce qu'on appelle la relation d'aide, ou dans l'aide à la relation, ou dans la compréhension, ou dans des dialogues, uniquement l'amélioration d'une personne. Dieu ne demande pas qu'on s'améliore. Il dit quoi d'ailleurs ? Tiens. Oui. Oui. Il dit que nous devons mourir. Que notre vieille nature doit être abandonnée, mise à mort. Ouais. Oh. mais il n'y a pas que du mauvais. Vous comprenez? Du bon. Et on essaye de faire cohabiter, coexister la Ruach HaKodesh avec notre propre Ruach. Et elles deviennent conflictuelles. Alors, cela veut dire non pas améliorer une nature, mais d'avoir ce que Paul et toute la Torah enseignent dans la réalité de tout cela, comment recevoir un esprit nouveau, une nouvelle identité. Et je vais vous dire ce que ça veut dire dans la pensée hébraïque, quand on l'approfondit. Je la résume, mais elle va beaucoup plus loin que ce que nous connaissons. Lorsque j'étais dans l'étude rabbinique à ce niveau-là, il y a quelque chose qui a fait un déclic en moi et qui a amené une modification. Parce qu'on ne peut changer qu'à partir du moment où on comprend les données du changement. On ne peut pas autrement. Parce qu'autrement, on les combat. On combat les changements. Tout ce qui veut nous changer est combattu par nous. Et tout ce qui voudrait venir en quelque sorte remplacer est rejeté. On a comme un phénomène de rejet. Et c'est pourquoi nous pouvons dire « Seigneur, change-moi, transforme-moi », mais dès qu'il commence à le faire, on dit « Stop ». Et on dit « Pourquoi ?» Alors, parce que ça va plus loin que simplement un conflit passager. Et dans l'hébreu, avoir un esprit nouveau, une mentalité nouvelle, une dimension nouvelle, c'est d'établir en soi une mémorisation du futur. Tu ne peux changer que quand tu as la compréhension de ce qui est à venir. Autrement, tu gardes ce que tu as construit et tu le reproduis. Et tu continueras à le reproduire. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, les données sont faussées. Alors c'est clair, bien-aimé, que nous allons rentrer dans la compréhension maintenant. Il faut maintenant approfondir dans notre cœur, pas dans votre intelligence. Il faut approfondir par rapport à cette marche avec Dieu. Imaginez-vous dans le désert. Le Mishkan est construit. Ça a été des années, ou en tout cas des mois et des mois de travail, d'efforts dans le soleil, dans la pénibilité. Ça a été des choses avec des règles strictes, des mesures, des matériaux. Il a fallu aller les chercher, il a fallu les façonner. Ça a été difficile. Et ils auraient pu être satisfaits en disant, voilà, c'est bon maintenant. Dieu, viens, fais tout le reste. Et puis c'est là que tout change. Alors, l'élément fondamental, c'est de comprendre l'inauguration du Mishkan qui a eu lieu avec cet épisode de Avihu et Nadav. Et c'est assez étonnant, ce début. Parce que c'est au moment où la nuée est venue et que l'Éternel se rencontre, mais surtout par un événement, par un phénomène, le feu qui vient consumer l'Holocauste, le feu d'en haut qui vient. Et ce feu qui vient d'en haut, eh bien, il avait non seulement un but, mais en même temps, il avait une raison profonde d'être, que je ne vais pas définir maintenant. Et c'est étonnant parce que Nadab et Abihu viennent avec leur feu et de l'encens. Et plus tard, dans la fête des expiations, il faut comprendre pourquoi ça a été rejeté, plus tard, dans la fête des expiations, dans le lieu très saint, il faudra le feu et l'encens. Mais ça n'était pas applicable dans la règle à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que Shemini nous amène dans la comptabilité. Nous sommes dans le temps de l'Omer, et Shemini, c'est le huitième jour. Est-ce qu'il y a un huitième jour? La création a été faite en sept jours. Nous ne connaissons pas huit jours, sauf par addition. Mais autrement, si nous disons qu'il y aurait un huitième jour à la semaine, on ne le comprend pas, parce qu'il n'existe pas. Dieu a créé en sept jours. Nous n'avons que la connaissance de sept jours. Et en même temps, Chimini nous dit que c'est le huitième jour. Alors, quelle est l'importance du huitième jour? C'est le huitième jour que le Mishkan va être inauguré et qu'il va nous amener un peu plus loin. Au combien de jours la Brit Mila, la circoncision, a lieu? C'est étonnant. Et c'est quoi la Brit Mila? C'est l'alliance. C'est l'alliance. Elle est le signe de l'alliance éternelle entre Dieu et l'homme. Elle est la marque dans l'identité de l'homme. Et ce qui marque la circoncision, c'est d'enlever quelque chose de soi. La Brit Mila, circoncire, veut dire couper tout autour pour sanctifier. Il y a donc quelque chose qui doit être ôté de l'homme pour qu'il serve à la base d'alliance, mis à part le sang, qui est le plus abondant le huitième jour. Ce n'est pas le septième, ce n'est pas le neuvième que la Brit Mila doit avoir lieu, mais le huitième, Shemini. Il est parlé d'un huitième jour, alors que, quelque part, nous sommes figés sur le chiffre 7. 7 jours de la semaine, les 7 jours de la création. Alors, le huitième jour, il nous amène dans la compréhension de ce qui est éternel. Parce que le septième jour est le temps du Shabbat, le temps de l'arrêt du temps, de l'existence même, de la création. Rien n'existe ce jour-là. Rien n'est fait ce jour-là. Rien n'a été créé. Mais par contre, il y a cette dimension, et cela veut dire que le 8 est un niveau plus élevé que le 7. Alors, on va le prendre d'une autre manière, maintenant. Lorsque Yeshua, dans le temps de Pessah, c'est intéressant, dans le temps de Pessah, il a été mis à mort à Pessah. Et qu'est-ce qui s'est produit? À la résurrection, il nous est dit le premier jour de la semaine. Si on le prend comme ça, premier jour de la semaine. Mais si on l'additionne, il fait 8. Le huitième jour, la marque du passage de la mort à la vie, du renouveau, du changement. Et je crois que c'est très important de le capter. En même temps, il faut savoir que c'est un dépassement du temps. Et que tant que nous ne sommes pas rentrés dans le dépassement du temps, eh bien, il y a quelque chose qui ne se construit pas en soi. Nous pouvons être traditionnalistes, religieux, attachés aux coutumes, attachés aux formes, sans être une nouvelle identité. Sans être dans les fonctionnements de l'éternité. Et tout simplement avoir des concepts et rester dans la forme mécanique sans avoir obligatoirement la révélation, la compréhension. D'où le fait que il est fondamental de saisir que dans Chimini, il y a cette dimension du feu sur l'autel. Et que lorsqu'on apporte le feu qui vient d'en bas, ce qui est lié à la temporalité, à la mort, à tout ce qu'est l'homme, eh bien, ne satisfait pas Dieu. Et que cela est lié à quelque chose. Et c'est maintenant que l'on va comprendre pourquoi il y a eu cette réaction de Dieu. Car quelle est la raison pour laquelle Dieu aurait fait sortir un feu de lui-même pour consumer comme un holocauste Adam et Naviou? Sur quelle base? Il n'y avait pas de loi et de commandement avant. Donc il y a quelque chose qui est vraiment dans la profondeur de l'interrogation, parce qu'on pourrait dire mais qu'est-ce que cela veut dire? Ont-ils désobéi? Ont-ils enfreint une règle? Alors la réponse est oui. Ils ont enfreint la règle, mais la règle qui n'est pas commune dans nos compréhensions. C'est qu'en fait, ils ont fait ce que Dieu n'a pas ordonné de faire. Et beaucoup de gens adaptent et veulent faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Ils font ce que Dieu ne demande pas. Ou ils parlent à la place de Dieu dans ce que Dieu n'a jamais rien dit. Et ils usurpent la dimension de la réparation du tikkun. Ils usurpent la manière dont l'Éternel est en train de construire le futur. Et je crois que si nous le captons dans cette dimension, Dieu n'a pas ordonné qu'on lui apporte du feu avec de l'encens ce jour-là. Et dans ce sens-là, ils ont été contraires. Même si on a du zèle, même si on a de l'amour, même si on a de la volonté, il y a quelque chose qui devient contraire aux règles de Dieu. Et le danger, c'est de devenir contraire à la halakha de Dieu. C'est de mépriser en disant « je vais adapter ». Et lorsque on commence un petit peu à pousser, on peut dire « mais tous ceux qui disent que Dieu a mis de côté, a rejeté Israël ou a rejeté la Torah, la loi, les commandements, que tout est accompli, qu'on n'a plus besoin de rien faire, qui l'a dit ? Est-ce que Yeshua a annulé ne serait-ce qu'une seule fois le Shabbat ?
Non, jamais.
Et pourquoi, on le fait ? Pourquoi les autres se permettent de dire que le Shabbat, c'est juif, et que le dimanche, c'est le jour du Seigneur ? Quand Dieu a-t-il remplacé son ordre, son sédère, son orientation, sa construction éternelle, son olam abba? Quand Dieu a construit dès le Aleph, il a construit olam abba, le monde du futur. Il a tout englobé. Et ce qui fait que tout ce qui va devenir contraire dans ce que l'homme va établir dans la pratique ou dans sa manière de vivre, eh bien, va obligatoirement apporter une dimension de faute. Et c'est ça que Dieu va juger. Alors, je ne m'attarde pas trop encore là-dessus, mais il faut bien comprendre que dans les bases et dans les racines, à un moment donné, le fait qu'on ait mis l'opposition des règles et des commandements de Dieu, qui ne sont pas la rigidité, parce que le terme Torah, il veut dire qui conduit, hein, qui conduit, qui donne une dimension, et en même temps qui nous fait devenir et qui amène à comprendre les règles et les lois et la nature de la sainteté de Dieu. Et donc Dieu n'avait pas ordonné cela. Et c'est en ce sens qu'il y a eu infraction. Et un deuxième point qui nous amène à approfondir et à comprendre également cette relation avec l'arche, avec les ordres et les réglementations de Dieu, c'est lorsque David, à un moment donné, alors que Saül n'a jamais eu le souci de l'Arche d'Alliance, il n'a jamais eu dans le peuple d'Israël le souci de ramener la présence, la shrina de Dieu. Il n'a jamais voulu reconstruire l'éternité de Dieu en Israël. Il a eu quelque chose de très particulier, Saül, c'est qu'il a voulu se construire une effigie en reflet de lui-même. Et tout simplement, il a voulu, lui, s'établir comme étant quelqu'un d'intemporel. Et Dieu l'a jugé. Et quand David est devenu le roi, eh bien, David avait tellement le souci de la maison de Dieu, quand on lit ses psaumes, il était là, dans une nostalgie. Je suis convaincu que quand vous êtes loin d'un lieu d'adoration, vous n'en êtes pas nostalgique aujourd'hui. Pourvu qu'on finisse tôt. Si on arrive à finir à l'heure, déjà, c'est pas mal. Qu'on finisse pas trop tard, et qu'il n'y en ait pas trop. Et puis après, vite, pour que je fasse ce que je veux, que je sois libre, et que je m'adapte dans mes rythmes et tout, et que je n'ai pas un rythme qui vienne d'en haut, et qui me dit, trois fois par jour, t'as rendez-vous, et qui me dit, voilà, la maison, l'étude, la Torah, la prière, la tefila. Et toutes ces règles, on les rejette et on les adapte en disant Eh bien, j'ai 5 minutes par-ci, j'ai 5 minutes par-là. Et en même temps, elle nous montre à quel point David était soucieux du détail. Et il était tellement soucieux du détail qu'il n'a pas supporté que l'arche soit dans le camp des Philistins, soit dans l'autre camp, que la présence de Dieu soit en dehors d'Israël. Et il avait cet amour de Dieu, cette relation inexplicable, parce que plus vous lisez les psaumes de David, les Tehillim, vous vous dites, mais c'est pas possible qu'un homme écrive ça, de cette manière-là. Qui arriverait à écrire ça? Nous, on est dans le blabla. Si on devait nous analyser dans nos prières sur 10 ans, je suis sûr que les gens, au bout de 2 pages, ils ferment, parce qu'il dit toujours la même chose, celui-là. Et il nous entraîne. Que tes demeures éternelles sont aimables, ta présence, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tant qu'il n'y a pas ce cœur, il n'y a pas le fonctionnement de Dieu. Il n'y a pas le fonctionnement de l'éternité. Oh, il y a la conscience de Dieu, mais il n'y a pas le fonctionnement. Et à un moment donné, David va dire, nous allons chercher l'arche. Et nous allons la ramener. Nous allons la prendre des Philistins et la remettre à Kiriath-Yarim. En attendant que sa maison soit construite. Il avait le même souci. Et pendant le trajet, David n'a pas suivi les règles du transport de l'arche. Est-ce que c'est grave? Oui, parce que vous connaissez l'histoire. Mais si vous ne connaissiez pas l'histoire, est-ce que vous diriez c'est grave? Et pendant le transport de l'arche, eh bien, il y a eu une petite montée avec les cailloux, et ça a commencé à bouger, et l'arche a commencé à descendre, et elle allait tomber. Et Ouza a dit, il ne faut pas que l'arche, elle tombe. Donc, il a fait quoi? Il met la main. C'est la même chose que Nadav et Avihu. Ah. Et quand il a mis la main, il est frappé à mort. C'est la même chose. Parce qu'il y a quelque chose qui peut nous paraître incompréhensible et difficile à capter, mais en même temps, si on commence à saisir ce que le Seigneur veut, alors à ce moment-là, ça devient glorieux. Alors, l'Éternel veut qu'on suive les règles, et David a compris après. Et il a fait selon les recommandations, et il n'y a pas eu de problème à ce moment-là. Cela veut dire que chaque fois que tu veux changer quelque chose, chaque fois que tu portes atteinte à ce que tu ne connais pas, ce que tu ne comprends pas, mais qui vient de ton désir, qui vient de ta pensée, qui vient de ta chair, qui vient de ton orgueil, qui vient de ton amour propre ou de ta blessure, quelle que soit l'origine, à un moment donné, elle ne peut pas se mélanger à la sainteté de Dieu. Et c'est là l'élément fondamental. Et on va plus loin. Yeshua HaMashiach, le Messie d'Israël, il dit, celui qui met en pratique mes commandements est-il contraire à la Torah? Il est en plein dans la Torah. Il applique la Torah. Il ne suit pas les commandements qui n'ont pas été dictés, écrits par la tradition écrite, donc la Torah, et la tradition orale, venue sous Ezra. Il connaissait les maîtres. Il connaissait l'enseignement des maîtres. Il n'était pas dans l'ignorance. Et il enseigne un certain nombre de choses. Et même quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau », il n'est pas nouveau. Quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », mais il va plus loin quand il demande ça. Quand il dit pas seulement « Si votre bon vouloir veut », mais il dit « je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer. Ah, combien d'entre nous s'aiment ? C'est des amours chaotiques. Il n'annule pas, au contraire, il l'amplifie. Quels que soient les passages que Yeshua prend, il les amplifie. Il leur donne encore une dimension plus concrète et qui demande encore plus d'efforts et de réalité intérieure. Il n'annule pas. Yohanan, dans le livre de l'Apocalypse, va nous amener aussi à comprendre un certain nombre de choses par rapport à toute cette dimension où parfois l'Église a voulu s'opposer, établir des nouvelles règles par rapport à Israël en disant « on annule ça, on enlève ça, il n'y a pas besoin de ça, et ça c'est juif, et ça, ça n'a rien à voir, et ça c'est les écrits du Talmud, et ça c'est la Torah, et ça n'a rien à voir, nous on est en Yeshua, on est libre, on adore, on loue, on proclame, et à un moment donné, on évacue. » Alors regardez bien ce que dit Yohanan dans un passage de l'Apocalypse. Il dit que celui qui surcharge le livre, et qu'est-ce que ça veut dire surcharger le livre ? Celui qui veut ajouter ne serait-ce qu'une modification. Voilà littéralement dans le grec. Celui qui veut surcharger, c'est-à-dire changer, modifier ce qui est écrit, ce qui est mentionné, alors il s'expose là, lui aussi, à recevoir un les fléaux et donc être frappé de mort. C'est exactement toucher l'arche d'alliance. C'est exactement de vouloir apporter le feu étranger. Et lorsqu'on veut changer, modifier les commandements de l'Éternel, lorsqu'on veut commencer à dire « ça, ça n'a rien à voir, et nous ne sommes plus sous ça, mais nous sommes dans ça », mais prouve-le en plus dans ta vie. Démontre-le. Démontre-le. Démontre que ta foi et que ta pratique est supérieure à la tradition juive. Que ton amour est supérieur, est vrai. Démontre-le. Et ne le dis pas seulement, uniquement comme un concept intellectuel. Mais montre. Et démontre. Et prouve. Et à partir de là, Yohanan va loin puisqu'il dit que celui qui surcharge ce livre, qui en rajoute, qui rajoute ce que Dieu n'a pas dit, on revient à notre paracha, mais également celui qui veut ôter de ce que Dieu a dit, sera frappé. Et je crois qu'il y a eu une légèreté dans l'histoire, une grande légèreté, de penser qu'on pouvait avoir la liberté de faire ce que l'on veut avec les commandements de Dieu, avec ce que Dieu a donné. Vous allez dire, c'est sévère. Mais en même temps, il y a ce qui est écrit, et la pratique, et le service de Dieu, finalement, ne s'adapte pas, il n'est pas fait, Dieu n'est pas modifiable en fonction de l'homme. C'est tout l'esprit hébreu par rapport à l'esprit occidental, c'est de comprendre la conformité du ciel, de rentrer dans la conformité. Et ce que l'homme moderne, ce que les églises modernes ne veulent pas, c'est la conformité aux lois de Dieu. Elles veulent adapter des nouvelles règles de louange, des nouvelles règles d'expression, des nouvelles règles de spontanéité, des nouvelles règles de danse, des nouvelles règles de témoignage, des nouvelles règles de ci, des nouvelles règles de ça, et la plupart, je pense pour la plupart d'entre vous, mais pour beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ils disent, mais on a perdu la substance de la vie. Il n'y a plus la substance de la vie. Oui, on a de l'émotion, on a de l'effervescence, on a de l'acclamation, on a de la joie, mais elle est temporelle. Et dès que vient un problème, un malheur, ou quoi que ce soit, on est frappé de tristesse, on est déjà dans le suicide, on est déjà dans la mort, on est déjà dans l'éloignement, et je viens plus ici et ça, parce que malheureusement, ça suit ce que nous avons dit. Dernier point que nous allons aborder, et il n'est pas des moindres, parce qu'il fait partie de quelque chose qui est la conséquence de tout ça et qui nous amène à réaliser cette progression. Ce n'est pas simplement vouloir s'approcher de Dieu et de dire simplement dans la prière par le verbe, par le mot, par la parole, par l'expression « Seigneur, je m'approche de toi et je veux être saint ». Dieu, qu'est-ce qu'il comprend quand on lui dit ça? Il ne comprend pas. Si toute la semaine tu as vécu comme un cochon et que tu viens et que tu lui dis « Je veux être saint », il ne comprend pas. Et il va dire « Khalouf ». Impur. Et c'est clair, mais regardez bien, tout ce que nous avons vu, c'est ça. Et ce n'est pas simplement une heure, deux heures de culte, même de confession, qui vont changer l'état, mais c'est une conformité quotidienne avec les mounins, avec la foi, avec la force, avec la vigueur qui transforme. Le troisième point, il se trouve justement dans Vaïkra au chapitre 11 et à partir du verset 44. C'est que ce qui a été établi juste après, c'est le pur et l'impur. Dieu va donner les règles du pur et de l'impur, non pas comme ça, de but en blanc, sans aucune raison. Et quand vous lisez Vaïkra, c'est vrai. Les lois pures et impures, vous ne les trouvez pas avant le chapitre 11. Et elles sont étonnantes parce que on pourrait dire, mais qu'est-ce qui a pris l'Éternel de vouloir d'un seul coup décrire le pur et l'impur? Et il y a une raison, et il y a quand même, comme je vous l'ai dit, pratiquement 10 chapitres pour savoir ce qu'est le pur et l'impur. Quand on demande aujourd'hui aux gens qu'est-ce que le pur et qu'est-ce que l'impur, ils pensent que sexuel. Sorti du truc. Les scénarios de films dans la tête, les fantasmes, les dérèglements, les perversions, ils pensent qu'à ça. Et le pur et l'impur, ce n'est pas que ça. Ça fait partie, mais c'est une nature qui s'exprime. Et Dieu veut sanctifier, rendre saint. Et c'est là que le bât blesse, hein, et je pense qu'on le sait. Ne pas se rendre impur. Voilà littéralement ce que Dieu dit. Ne te rends pas pur par des pratiques, par des choses qui sont contraires à ma sainteté, des choses qui sont contraires à mon identité. Et à partir de là, ça veut dire que Dieu nous demande, ni plus ni moins, d'atteindre chez Mini un niveau de sainteté qui s'élève au-dessus du chiffre 7 et qui élève notre niveau de vie. Et c'est clair que c'est difficile. Parce qu'on est prisonnier des passions. On est prisonnier des besoins, d'assouvir les instincts. Mais c'est un règne animal. Et c'est clair que notre compréhension est parfois conflictuelle à ce niveau-là. Et la parole même du Seigneur est très claire. Quand il dit « Ne vous rendez pas impurs par ces choses. » Il dit « impropre ». Et que dit Paul? Paul ne dit-il pas qu'il y a des vases différents dans la maison? Les vases vils et les vases d'honneur. Paul est exactement dans la Torah. Il est dans la compréhension totale à ce niveau-là. Et il le mentionne très clairement. Simplement, comme on en a fait des prédications dissociées, détachées de la compréhension de ses racines, on a une interprétation qui certes peut parler, mais ne donne pas la compréhension d'atteindre un niveau de sainteté. Et c'est ça le conte du Homère, c'est de s'élever de l'impureté, du niveau de l'impureté le plus bas, la poussière de la terre, pour atteindre le plus haut niveau de la maison de Dieu. D'atteindre le plus haut niveau. Et ceci veut dire que c'est une progression. Et de s'élever, c'est chaque jour. C'est un combat. Ce n'est pas simplement parce qu'il a été mené il y a un an et qu'il est acquis 2 ans après. Non ! C'est constant. C'est une lutte constante. Tant que le jour et la nuit existent, il y aura toujours cette opposition entre la lumière et les ténèbres dans la vie de l'homme. Ce qui souille la neshama, et c'est là que ça va plus loin, ce n'est pas simplement l'extérieur, le corps, avoir une bonne ou une mauvaise odeur extérieure ou corporelle, mais c'est ce qui souille l'âme, la neshama. Alors les lois vont plus loin parce qu'elles vont commencer à toucher ce qui rentre dans la vie de l'homme, la nourriture. La première des choses, elle vient là. Et quand on parle de ça, les lois, qui ne sont pas les lois de la cacheroute, puisque c'est le rabbinat qui a établi les lois de la cacheroute, mais quand on parle de la relation alimentaire avec l'homme, l'homme n'est pas capable par lui-même de distinguer le pur et l'impur. Aucun de nous, même à l'époque d'Adam, aurait pu dire cet oiseau est pur et cet oiseau est impur, parce qu'on n'aurait même pas su pourquoi. Et pourquoi le définir ? Seule la Torah nous aiguille à nous dire, voilà, ça c'est pur, ça c'est impur. Mais si tu manges le pur, ça va. Mais si tu manges l'impur, quelle est la conséquence ? Est-ce que c'est seulement le fait que tu vas uniquement ingurgiter quelque chose qui va avoir une répercussion sur ta santé ? C'est pas ça. C'est plus profond que ça. Alors dans Vaïkra, on va lire, parce que les passages là sont très importants. Vaïkra 10, Lévitique si vous préférez, parce que Vaïkra 10, verset 6. Moshe dit à Aaron et à Eléazar et Itamar, fils d'Aaron, c'était les deux derniers fils. Vous ne découvrirez point vos têtes, vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel s'irrite contre toute l'assemblée. Vous voyez ? Laissez vos frères et toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Et ils firent ce que Moïse avait dit. Et on va lire encore dans le verset 16. Moshe chercha le bouc expiatoire, et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Itamar, et les fils qui restaient à Aaron, et il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire ? Dans le lieu saint. Dans le lieu saint. » C'est une chose très sainte. Et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée. Là, on prend un relief différent. Quelque part, des fois, nous devons, nous, porter votre iniquité. Et je peux vous dire, des fois, ce n'est pas facile. Afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Et Aaron dit à Moïse, voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel ? Moïse entendit et approuva les paroles. Rien n'est figé. Ça ne veut pas dire qu'il y a loi et immédiatement à application de condamnation. Il y a des compréhensions des situations. Mais en même temps, il y a des règles. Alors, dans les initiales de ces versets, et notamment de celui du verset 17, il est écrit les mots « malé ahava ». Ça veut dire « rempli d'amour ». La colère d'amour. Et il y a une colère d'amour et il y a une colère de la destruction. Lorsque l'homme s'irrite contre quelqu'un, ou quand, à un moment donné, il provoque, il agace, il irrite, il pousse ou il veut pousser à la faute, eh bien, ce n'est pas toujours évident de, on va dire, de contenir. Et Moïse, à un moment donné, on le voit, s'irrite parce qu'il ne reste que deux neveux. deux fils à son frère. Et il dit, mais il va les perdre encore. Parce qu'ils ne le font pas. Et à ce moment-là, il commence à argumenter et puis Aaron explique. Et la colère de Moïse est une colère d'amour pour sauver et pas pour juger et condamner. Ce que beaucoup d'Occidentaux ne comprendront jamais, que les lois ou parfois même les jugements de Dieu sont des actes d'amour et non de colère. Non, un plaisir de la destruction. Non, la loi n'est pas quelque chose qui veut faire périr et mourir, mais donner la vie. Baruch Hashem. Alors on va reprendre dans quelque chose rempli d'amour quand on voit Yeshua être accusé. C'est intéressant. Yeshua, à un moment donné, elle se retrouve dans une situation où c'est en rapport avec l'ablution des mains. Personne n'a fait attention à ça, je suis convaincu qu'aucun pasteur n'a prêché là-dessus. Le fait que les disciples du Mashiach aient simplement oublié l'ablution des mains, de se laver les mains, de se purifier avant de manger. Ils ont oublié. Et personne ne va vous dire ça, mais par contre, ils vont vous sortir dans ce que je vais vous dire. Alors, la mitrailleuse. Parce qu'il est dit, justement, en rapport avec ça, mais c'est l'ablution des mains, le coupable. Regardez, on accuse Yeshua en disant, pourquoi il ne respecte pas la nourriture. Et Yeshua va leur répondre, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort. Alors, comme ça, vous allez le comprendre au niveau premier. On le comprend dans la pensée juive rabbinique. Ça veut dire que chaque fois qu'un animal est mangé, c'est une nature qui est mangée. C'est quelque chose qui s'identifie dans notre corps, qui passe dans notre corps. Et quand on ne respecte pas la cache-route et que le sang est intégré, alors à ce moment-là, on mange la substance de la vie animale, l'identité de l'animal. Et Paul va le traduire en disant que nous avons une nature animale. Et la nature animale, elle va se répercuter dans les exclamations et les réflexions même de Paul, disant, à un moment donné, elles vont se distinguer en deux niveaux, le pur et l'impur. Il va dire que celui qui marche dans cette nature non respectueuse de Dieu, eh bien, il va être grossier, vulgaire, et il va développer l'instinct animal, une sexualité bestiale. Il n'aura pas le respect du corps de l'autre, mais il cherchera à assouvir l'instinct, et il dépendra, et il deviendra de plus en plus pervers. Ça, c'est l'animal. La nature de l'animal, c'est également tout ce que Paul dit dans les Galates, dans le fruit de la chair et de l'esprit, le pur et l'impur. L'opposition par excellence, les niveaux d'opposition. Quand il va insister sur tout ce qui amène les dérèglements et qui deviennent parfois des liens, des souffrances et des choses qui sont indomptables dans l'être humain, c'est parce qu'elles n'ont pas été régies à un autre niveau. Mais il y a le deuxième niveau qui va plus loin. C'est que Paul va aussi mentionner dans Galates 5:22, il va dire, mais voilà en quoi consistent les œuvres de la Ruach HaKodesh, de l'Esprit Saint, de la présence sainte, du respect saint, de tout ce qui est saint pour l'Éternel. Il va dire, ça consiste en toutes sortes de bontés. Combien de gens, combien d'entre nous sont bons? Combien d'entre nous ont de la bonté? Franchement. Combien d'entre nous pratiquons ce que Paul appelle par toutes sortes de bonnes œuvres? Que faisons-nous de bon? Et vous voyez, ce n'est pas une culpabilité que l'on doit recevoir. Ce n'est pas un jugement, mais une compréhension qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et qu'il nous faut régler les dysfonctionnements. Alors, en même temps, quand Yeshua dit « ce n'est pas ce qui rentre », bien sûr qu'il a respecté la cache-route. Yeshua n'a jamais mangé le chalouf, le cochon, le porc. il a toujours respecté et il n'a jamais été repris sur ce qu'il a mangé. Jamais un Pérouchim n'est venu vers lui, un docteur de la loi n'est venu l'accuser d'avoir enfreint la loi de Moïse. Ni même sur le Shabbat, même s'il y a eu une discussion halakhique de pratique, mais qui n'était pas une condamnation, une annulation, et même Yeshua n'annule pas Shabbat. Et donc, cela nous amène à comprendre quelque chose de très important, parce que quand on va dans Vaïkra, là, au verset 11 du chapitre 11, 10, il nous est dit quelque chose de très important et de fondamental, et qui va nous aider à comprendre ces paroles même de Yeshua. Parce qu'il est dit au verset 12, vous mangez-le, ce sacrifice, cet animal consumé, mangez-le, mais sans chametz. Alors, on se dit, d'accord, Pessah, mais qu'est-ce que cela vient faire avec le sacrifice d'expiation, le pain sans levain? Et tout à coup, nous savons que le pain sans levain est le contraire de la destruction, de la mort. On est d'accord? Le levain, c'est la corruption, c'est la mort. Et le pain sans levain, c'est la nature pure. Et à Pessah, elle est identifiée à la nature sainte, pure, totale, sans péché, sans mal, sans fraude du Mashiach. Et c'est pourquoi c'est important. Alors, Matthieu 15, 11, pour la référence. Et la souillure de l'homme est liée à ce qui le nourrit dans son âme. Et c'est ce qui rentre par les yeux, toutes les portes d'entrée de l'homme, de l'être humain, de la nature humaine. Nous avons les portes d'entrée, les yeux, le nez, les odeurs, les oreilles et la bouche. Et toutes choses sont liées aux relations avec le visible, avec le physique, parce que nous enregistrons, nous avons un magnétoscope là, un DVD, un Blu-ray maintenant. Et chaque fois que nous regardons des choses, et il y en a qui nourrissent leur âme, leur vie, leur être intérieur d'images impures, et puis après ils disent « Oh, priez pour moi, ça ne va pas. » Mais dégage, dégage des lieux impurs. Arrête de dire « Priez pour moi, dégage tout le camp !» Arrête, stop de faire le mensonge et d'être dans le mensonge. Et en même temps, il y a ceux qui se gargarisent du Lashon Hara. Dès qu'ils entendent un commérage ou une petite substance de chametz qui dit du mal de l'autre, ils s'en nourrissent. Et ensuite, ils en parlent et ils déforment encore plus. Et ils porte atteinte à la dignité de l'autre. C'est ça les fonctionnements de la cacheroute. Ils entendent, ils nourrissent leur méchanceté. Et l'Éternel, au travers du Mashiach, nous dit justement de ne pas être dans cette nature-là, de la rejeter, parce qu'elle donne un comportement de vulgarité. Et chaque fois que l'être est vulgaire, il révèle son impureté. Il révèle son impureté profonde. L'impureté non pas seulement physique de sa viande, mais il révèle l'impureté de sa pensée, l'impureté de son âme et ses mauvaises intentions. Et les intentions cachées pour faire le mal. Et il les dissimule par un masque. À partir de là, il faut comprendre que l'impureté se révèle par le fait de la nature souillée qui donne un comportement. Et celui qui nourrit son âme de ce qui rend impur aura un comportement impur. D'où le fait que l'Éternel appelle à se purifier. Purifier quoi? Non pas vos corps uniquement par le mikvé, mais purifier votre neshama, purifier vos âmes. Il est écrit littéralement comme cela. Et à partir de là, c'est une attitude de sainteté face à l'autel, parce que c'était face à l'autel que devait être mangé cela, là où le feu était. Et c'est quelque chose de très important. et Yeshua nous démontre la nature pure, sainte, sans colère, sans méchanceté, où il nous dit d'ôter le chametz. Et Paul va aussi plus loin puisqu'il dit ôter le chametz du dedans de vous. Pas le chametz simplement qui est là dans la fête de Pessah et qu'on a le droit de manger durant toute l'année après. Mais il dit que le chametz ne doit jamais être présent en nous. Jamais. Et il dit justement pour que la présence de Dieu et la prière soient pures. Purifiez vos mains, ablution, ouratz. Combien d'hommes et de femmes lèvent et lèvent des mains impures. Ce qui souille conduit à la mort. Devenir un pain azyme, c'est ce qui se distingue et s'éloigne de l'idolâtrie. Tu ne veux pas être un idolâtre. Quelqu'un qui est pris par les liens de la mort, par les liens des ténèbres, par les liens de l'affliction, par les liens de toutes sortes de choses, alors éloigne-toi. Voilà ce que dit le tabernacle. Voilà ce que enseigne la dimension justement de ce temps du Homer, de l'inauguration du Mishkan. Je suis conscient que j'ai bien débordé, mais je vous dis franchement, j'ai tellement travaillé ça dans mon cœur. Et l'Éternel m'a tellement parlé, je sais que c'est clé pour nous. Et j'espère, et s'il y en a qui ne sont pas contents, s'il y en a que ça dérange la dimension juive, s'il y en a qui veulent opposer, ils n'ont rien à faire là. Votre chametz, vous le sortez et vous l'amenez ailleurs. Mais nous, croyons, parce que nous croyons d'une foi ferme, comme disait Maïmonide, dans l'éternité de Dieu. Nous ne croyons pas dans la temporalité de la parole humaine, ni dans les intentions humaines. Nous croyons dans les intentions divines. Nous croyons dans la dimension glorieuse de l'Éternel. Et je crois que c'est très important parce que la prochaine fois, nous allons voir que ça va encore plus loin. Et que nous allons comprendre la dimension de l'homme nouveau. Quand il est parlé dans Éphésiens 2, 14, ou dans Éphésiens 2 pour être plus exact, sur un ensemble de passages entre Israël et l'Église, que beaucoup ont opposé, dissocié, séparé. C'est quoi qui a été opposé, séparé? C'est pas les noms, c'est les pratiques, c'est les compréhensions. C'est ce qui a rejeté et ceux qui se sont accaparés. Et il nous faut comprendre que Dieu veut qu'on abatte le mur de l'inimitié. Dans une synagogue messianique, aujourd'hui, si on n'est pas dans cette règle, de vouloir abattre le mur d'inimitié, de vouloir rester un bon ancien membre d'un lieu, quel qu'il soit, j'ai rien contre, tu as le droit, mais change quand tu viens là. Adopte le rythme et la vie. Et si ça ne te convient pas, prends ton chametz et reste chez toi. Et l'Éternel à un plan, et nous entrons dans quelque chose, parce que je ne peux pas le décrire, ce que je ressens, je ne sais pas, je ne sais pas formuler. Mon intelligence est un peu limitée à ce niveau-là. C'est tellement dépassant. Et je veux vraiment, bien aimé, qu'on ait une Keïla qui se conforme au Mishkan, au Temple, à la règle de Dieu. Parce que là, je sais qu'on ne se trompe pas. Parce que là, je sais qu'on ne va pas s'égarer. Parce que là, on ne va pas être dans l'interprétation subjective et qui n'a rien des fois à voir avec la parole de Dieu, avec son sens, sa substance. Et que nous devons redonner. Mon cœur, c'est un dernier élan que je donne, non pas aujourd'hui, mais dans les années qui viennent. C'est le dernier élan que je donne à l'Assemblée. C'est le dernier. Il n'y en aura pas d'autre. Et croyez-moi, ma femme me connaît. Quand je dis ça, je le tiens. Je ne manque pas à ma parole. Et je crois que c'est important. Parce que c'est la relation des juifs et des non-juifs. Je comprends tout à fait qu'on veuille rester non-juif. Mais ça n'exclut pas l'adoption. En aucun cas. Ça n'exclut la conformité. Et c'est là que nous devons rentrer dans la règle. Si Dieu a donné un appel, Je ne dis pas que je suis un supérieur du tout, parce que je suis le plus nul. Si Dieu a donné quelque chose où on doit se conformer, il a donné un plan d'action, nous avons prié un an. Et il y a ceux qui voudraient établir leur modèle, qui est la plus grande souffrance du Rav, c'est vos modèles, vos adaptations sans suivre, sans l'obéissance, sans la conformité, mais pour une identification parfois liée à une crise identitaire, de vouloir s'identifier par un talit, une kippa, ou de ne pas le mettre. Hein, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Eh bien, la réglementation, c'est de respecter la vision à l'appel du maître. Le maître, lui. C'est de respecter la conformité de l'appel. Et je suis peut-être un mauvais instrument de communication, mais il y a quelque chose qui est vrai et qui doit demeurer dans le vrai. C'est qu'il y a cet amour, ce désir, mais comme je vous l'ai dit, ce sera le dernier rappel à ce niveau-là dans les années qui viennent.